c'est premièrement mon amie, une amie vraiment sincère, une amie fidèle, une femme loyale, une femme d'engagement. Et je veux m'adresser à elle pour dire vraiment, je t'honore et je t'admire pour la maman que tu es. Tu m'encourages et dans tes actions tous les jours, vraiment, tu donnes une percée puis une propulsion à tes enfants, mais aux mères autour de toi, Madame Sonia Fontaine.
Déjà avec des larmes, c'est bon. Non, c'est juste touché. Bon matin. Je me suis amenée des petites notes juste pour pas rien oublier. Puis aussi, des fois, dans ma tête, ça va vite. Puis je veux pas que mes paroles y aillent vite autant que ma tête. Fait que je me suis amenée un petit aide-mémoire. C'est ça, quand Sonia m'a approchée il y a à peu près un mois, ce coup, j'ai fait « OK, ben oui, je vais relever le défi ». Puis là, je suis partie chez nous. Oh, ouais, mais là, je veux dire, il y a tellement de mamans dans l'assemblée. En tout cas, il y en a des beaucoup plus expérimentées que moi. Fait que je me disais, oh là. En tout cas, je vais le faire. J'ai dit oui, je vais le faire. Puis Dieu, tu vas me guider. Puis dans le fond, c'est ça. Si je peux être au moins peut-être une exhortation pour les plus jeunes mamans, les mamans de mon âge. Puis c'est ça. Dans le fond, ce que j'ai pensé commencer, c'est par vous donner un peu mon parcours, mon histoire. Je pense que ça part de là, comment je suis devenue une maman. moi, j'ai toujours dit, depuis longtemps, j'ai toujours dit que j'étais née pour être une maman. J'étais petite, j'étais déjà une mini-maman, là, avec mes frères, mais aussi avec d'autres enfants, que j'aimais les prendre sous mon aile, puis donner ce que j'avais, tu sais. Puis, ado, c'est sûr que déjà ado, j'avais hâte d'être une maman. C'était comme, c'est pas le temps, là, mais j'étais déjà une je me faisais dire par des mononcles de l'Assemblée, je ne nommerai pas, là, mais toi, là, tu pourrais être maman là. T'es tellement déjà une maman. Puis c'était pas le temps, mais c'était juste pour dire comment est-ce que ça brûlait dans mon cœur, là, tu sais. Ça paraissait, je pense, dans mes agissements. Puis c'est ça, rendu au moment où on s'est mariés, Sébastien puis moi. On a pris ça relax au début, puis après ça, il est venu le temps de dire, bien, OK, on commence-tu à avoir des enfants? Puis là, quand tu veux avoir des enfants, c'est le mois d'après, tu veux être enceinte. C'est pas de même ça marche, mais dans ta tête, c'est comme là. Mais ça s'est pas passé comme ça. Depuis, je sais pas, 14-15 ans, là, mon plus loin souvenir... au niveau des... j'ai toujours eu des grosses douleurs, vraiment intenses, qui faisaient que j'avais vraiment beaucoup de misère avec mon sommeil. C'est ça. Là, à travers mon mariage, j'étais dans les douleurs, mais je n'avais pas fait le lien que ça avait rapport avec mes règles, là, on va dire ça. C'est ça. Je n'ai pas fait le lien. Puis, à un moment donné, à force d'année en année avec mon médecin, je fais 1+1. À un moment donné, j'ai remarqué que c'est vraiment dans mes périodes... C'est intense, j'en dormais plus, j'avais des grosses douleurs, là. J'en dormais plus, j'avais plus de position pour dormir. Fait qu'après 4 ans de questionnement avec mon médecin, à un moment donné, j'ai dit, là, je veux un papier pour voir un gynécologue. Fait que là, c'est toi, il faut qu'il dise au médecin. Hein. Fait que là, le médecin, il dit, oh, OK. Il m'a donné un papier. L'après-midi même, j'appelais dans une clinique pour rencontrer un gynécologue. Et ça, bien, quand tu n'es pas enceinte, voir un gynécologue, c'est un an d'attente. Fait que j'ai attendu d'avoir mon rendez-vous. Et je vais toujours me rappeler de la date, le 20 janvier 2005. C'était peu après la fête de ma maman. J'ai eu comme une claque d'en face parce que je me suis rendue à mon rendez-vous seule et le médecin, il a fait 1+1+1. Ça avait rapport avec mes règles. Et c'est sûr que dans sa tête, c'était l'endométriose. Fait que quand il a dit l'endométriose, moi, je ne savais même pas le prononcer au début, le mot, je fais « OK ». Puis là, il a dit « infertilité ». Tu es probablement infertile. OK. Là, toi, tu es toute seule dans le bureau du médecin, puis tu entends le médecin qui est un spécialiste, tu dis « bon, ben, OK, je retourne au travail ». J'étais retournée, je travaillais dans un CPE à ce moment-là. Je suis retournée dans mon univers de travail démolie, parce que dans ma tête, moi, je voyais le médecin dire « infertilité », donc j'ai arrêté sur ce mot-là. Et là, on m'a donné comme l'après-midi parce que c'était comme, j'étais comme intense, là, un peu, dans mes émotions. J'ai appelé mon mari, j'y ai dit, puis après ça, je me suis rendue où? Où c'est que j'étais allée? J'étais allée voir ma maman, parce que les mamans, là, un maman un jour, maman toujours. Je me suis rendue chez maman, puis je ne sais pas si ça s'en rappelle, mais moi, je me rappelle, j'étais, j'aurai jamais d'enfant, il parle d'infertilité, puis là, je pleurais ma vie, parce que moi, j'étais née pour être une maman, là. Mais là, ma mère, je me souviens comme une mère, elle a dit, tu dis pas ça, arrête, je vais être grand-maman, tu vas avoir des enfants, dis pas ça. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, là. Mais c'est ça. Là, ce que j'ai fait, j'ai eu l'idée d'aller appeler ma tante. J'étais allée en haut, puis j'ai appelé ma tante qui n'a pas eu d'enfant, qui est infirmière aussi. Puis j'ai juste voulu vérifier avec elle. Puis quand j'ai appelé, puis j'ai dit ce que le médecin dit, ben oui, c'est ça que je fais, moi, c'est pour ça que je n'ai pas eu d'enfant, j'étais infertile, puis dadada. Puis les médicaments qu'ils m'ont donné, ben ça l'a arrêté mes règles. Fait que moi, je suis ménopausée depuis 32 ans, puis là, OK, là, c'est parce que moi, ça ne m'encourageait pas, là. Moi, je voyais encore plus difficile. Et là, j'ai fait le lien aussi avec ma tante de l'autre côté de la famille, de l'autre du côté à ma mère, qui elle aussi, elle en faisait, elle n'a pas eu d'enfant. Fait que moi, j'étais là, OK, moi, je suis liée, là, je suis pognée là-dedans. Mais Dieu, il est plus grand que ça, là, tu sais. Mais moi, là, ma peur, là, c'était donc de ne pas avoir d'enfant. Puis sûrement que le désir d'avoir des enfants, je vais le dire aussi, c'est que, tu sais, quand tu as une bonne maman aimante qui a tout donné pour sa famille, t'sais, c'est sûr que ça donne le goût d'avoir des enfants aussi. T'sais, tu vois l'amour dans ses yeux, tu vois qu'à tous les jours, elle fait ça avec joie. T'sais, être une maman, fait que, t'sais, veut pas. Moi, c'était comme clair que je serais mariée et j'aurais des enfants. Mais là, je suis retournée chez nous, à la maison, puis j'ai stressé un peu parce que le médecin, lui, il avait parlé d'opération. Donc, opération, moi, une piqûre, puis je tombe, là, fait que l'opération, c'était comme non, non, non. Finalement, les semaines ont passé, puis j'ai fait comme, OK, j'ai la paix. L'opération, je voyais ça comme ça va être un nettoyage, puis j'ai un petit bébé qui va pouvoir naître là-dedans, parce que l'endométriose, en fait, c'est qu'il y a des saignements partout, c'est pas juste dans l'utérus, là, ça sort, puis c'est ça qui cause des douleurs, mais ça fait aussi que ça fait comme des toiles d'araignée. Fait que le fœtus, il y a de la misère là-dedans. Fait que finalement, ça a même pas pris un an, mais pour moi, c'était long. Et là, en avril, j'ai vu l'infirmière en vue de l'opération. Et là, l'opération était, je crois, le 25 mai. Et là, OK, le 23, moi, je m'en vais le mardi. Je me souviens que c'était jeudi, l'opération. Le mardi, je m'en vais à la pharmacie acheter le petit savon, les choses qu'il faut que je pense pour avoir pour l'opération. Et pendant que je ne suis pas là, mon mari reçoit le téléphone de l'hôpital qui dit que, parce qu'il devait avoir une chirurgienne et le gynécologue qui m'a parlé d'eux, parce qu'il se questionnait, vu que j'avais une masse aussi, il n'aimait pas bien ça, fait qu'il fallait qu'il y ait aussi la chirurgienne, les deux. Mais là, la chirurgienne est en arrêt de travail, elle ne pouvait pas m'opérer. Donc, ils ont remis ça au 10 juin. Fait que là, moi, j'arrive chez nous. « Ah, t'es sûre? Ah, c'est bizarre, ça, deux jours avant. OK. Bon, bien, coudonc, on va attendre au 10 juin. » Et les jours passent, le 1er juin, le matin, je me sens comme si je pense que je suis enceinte. Mais tu sais, tu ne veux pas te faire d'idée, mais tu dis, bon, fais un petit test et j'étais enceinte. Fait que Dieu, il avait agi, j'avais même pas besoin de faire l'opération. Et moi, c'était comme, waouh! Fait que quand ils m'ont rappelé pour confirmer l'opération, je dis, non, je suis enceinte, là, moi, je ne passe pas par l'opération. Ils m'ont rappelé un an après aussi, vous êtes encore sur la liste, mais non, moi, je ne passerai pas par l'opération, je sais que je peux avoir des enfants maintenant. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, excusez. Les années ont passé. C'est sûr que j'ai perdu des enfants aussi. J'ai fait des fausses couches. Les douleurs étaient là, toujours. J'ai passé les années, puis j'ai eu trois super enfants. Je suis maman de trois enfants maintenant. Et c'est vraiment une bénédiction. C'est sûr que c'est le plus beau privilège, mais c'est aussi un défi, toujours. Et c'est ça. Là, quand tu deviens... Ah, puis je veux juste dire aussi, quand j'étais enceinte de ma première, j'étais enceinte genre 7 mois. J'étais plus grosse que toi, là. Ça paraissait vraiment beaucoup que j'étais enceinte. Puis Eugène May était venu ici, puis il avait fait avancer pour quelque chose, puis il priait pour nous. Puis moi, j'étais venue, puis j'étais enceinte. Puis là, il y avait un verset, puis il ne comprenait pas trop pourquoi je vais lui dire ça. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi il faut que je te dise ça. T'sais, en voulant dire, je vois bien que tu es enceinte. Mais là, il m'a donné... Exode 23, 25, 26 qui dit que je vais te bénir d'une nourriture en abondance, de l'eau, et je vais... Il n'y aura plus de stérilité dans ton pays, plus de femmes stériles. Donc, je l'ai pris vraiment comme une promesse que j'aurai d'autres enfants, que mes filles vont avoir des enfants, que mes belles-sœurs, mes frères. Là, c'est ça, il n'y en a pas de stérilité avec Jésus, on l'a dit un matin. Et c'est ça. Quand tu deviens maman, là, tu te dis, OK, là, ouais. Moi, je suis une fille quand même qui était insécure, anxieuse un peu, fait que, là, tu veux faire tout correct pour ton enfant. Puis là, bon, avec Jésus, tu sais, comment je vais l'élever, cet enfant-là? Mon rôle, ça consistait en quoi? Fait que c'est sûr que j'avais un modèle super, tu sais, de maman qui, une maman aimante, puis qui prie encore pour nous, puis qui prie encore pour ses petits-enfants. C'est sûr que avoir une vie de prière, c'était primordial au départ. C'est comme m'adresser toujours à Jésus en premier. Quand il y a une tempête ou n'importe quoi, c'est toujours d'avoir le réflexe. C'était pas toujours mon cas, là. Je suis pas toujours Ah, Seigneur, tout de suite, là. Parce que j'ai un exemple. Quand les enfants commencent à l'école aussi, on est comme non, ils vont être en grosse. On ne sont plus dans leur bulle. T'sais, moi, j'étais à la maison. J'ai une garderie à la maison. Fait que mes enfants sont avec moi jusqu'à temps qu'ils aillent à l'école. Puis je me disais, j'étais inquiète un peu. Puis. Un jour, en première année, ma grande qui débarque pas de l'autobus. Moi, j'étais en poussette avec Joliane puis Caleb qui marchaient à côté, puis j'attendais au coin, puis la chauffeur, elle ouvre la porte, puis il y a d'autres enfants qui sortent, puis la mienne, elle sort pas. Puis là, je suis là, où est ma fille? Et là, tout de suite, c'est sûr, ça a monté, l'inquiétude, puis tout ça, la peur. Bon, dans ma tête, c'était, bon, elle s'est fait enlever. Il y a quelqu'un qui l'a pris au bord de la clôture, c'est sûr. Là, tu sais, ça va vite, là, dans ma tête. Moi, je pensais à ça, là. Là, oh non, elle appelle, c'est le directeur des autobus, cherche dans d'autres autobus, des fois, qu'elle aurait pris la mauvaise autobus. Tu sais, à 6 ans, ça peut arriver. Fait le tour, non, OK, mais elle, il faut qu'elle continue sa run. Ben, OK, je vais retourner à la maison, je vais appeler à l'école. Fait que là, je m'en vais, puis je pleure, puis mon Caleb qui me regarde, puis ma Joliane dans la poussette, puis là, j'arrive, puis je capote. Puis là, en même temps, je suis là, Seigneur, protège ma fille. Puis en même temps, je m'inquiète. Puis Dieu dit de ne pas s'inquiéter, hein. Mais moi, je m'inquiète. Et là, j'appelle mon mari au travail, va à l'école, Liliana n'est pas débarquée de l'autobus. Là, mon mari qui se rend. Mais pendant ça, là, ça passe le temps. C'est peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure là, en tout. Là. Mais moi, ça paraît une éternité. Tu cherches ton enfant, tu sais. Et qu'est-ce que j'ai fait après avoir appelé mon mari? J'ai pogné mon téléphone cellulaire et j'ai appelé ma mère. Parce qu'il y a maman! Je me souviens encore, j'ai appelé, là. Puis j'étais là, maman! Là, je pleurais. J'ai mal en dedans, ça me fait mal! Puis je pleurais, mais... Puis elle était là, cocotte, c'est correct. On a prié, elle a dit, c'est correct. Elle m'a rassurée. J'ai raccroché et là, Sébastien m'appelle de l'école, puis finalement, la petite tannante, elle n'était pas au service de garde, elle était pas, c'est juste qu'elle était, et puis j'avais appelé aussi au service de garde. Hein. Et là, finalement, il y avait un atelier de corde à danser, puis elle, ça y tentait d'y aller. Fait que, elle dit, oui, ma mère, elle va venir me chercher plus tard, c'est quoi là, le problème? Elle sautait avec sa petite corde, puis là, j'étais là, oh, j'avais vu le papier circuler, puis j'ai jamais signé ça. Moi, je voulais qu'elle revienne à la maison comme d'habitude, là. Et là, c'est ça. Elle a été confondue avec un autre enfant qui s'appelait Eliane. Et donc, ma petite tante était restée à l'école. Fait que là, tu sais, Dieu, il avait sa main sur elle. Puis moi, j'ai fait, OK, j'ai capoté un petit peu pour rien. Fait qu'on n'est pas parfait, hein, mais c'est ça. Il se passe toutes sortes d'affaires quand on est maman. Puis on. C'est ça. Fait que la prière pour nos enfants, c'est sûr que c'est important. Je prie avec eux. Ils savent, les enfants, je le dis souvent, je prie. Dans le jour, je prie toujours pour les enfants puis mon mari. Puis quand on m'a approché pour mère en contact, justement, c'est sûr que j'ai dit oui tout de suite. J'étais tellement, parce que justement, l'école, c'est gros, puis tout ça. Puis on peut pas faire grand-chose. Rendu à l'école, on peut pas y surveiller. Fait que ça, c'est quelque chose de puissant. Les mamans là, qui prient, tu sais, c'est vraiment gros. C'est Dieu, il n'y a pas une prière qui est oubliée. Dieu, il entend tout. Puis les prières d'une maman, c'est fort, tu sais. Et là, c'est ça, on m'a approché. Puis c'est sûr, j'ai embarqué tout de suite dans le groupe. Moi, ça venait aussi calmer des choses, de savoir qu'il y a au moins ça que je peux faire prier. Puis c'est la chose la plus importante, je dirais. Et là, c'est ça, le livre « La prière d'une mère », ça m'a inspirée aussi beaucoup, là. Il y a plein de témoignages là-dedans de mamans qui ont vu Dieu agir, pas juste quand son petit, là, en vieillissant aussi. Là. Et prier avec d'autres mamans, c'est puissant. Prier, c'est sûr, seul, avoir une relation avec Dieu, ma maman, je l'ai vu avoir une relation avec Dieu, fait que, tu sais, veux pas, moi aussi, je me suis m'inspirée, est inspirante, ma maman, fait que je vais, c'est sûr, j'entretiens une relation avec le Seigneur. Et aussi de s'impliquer, comment c'est important aussi dans nos écoles, quand on entend des choses qui vont rentrer dans nos écoles, puis on veut pas, puis bien, de parler, de donner une voix à nos enfants, puis de parler, puis de dire non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je me souviens qu'à un moment donné, mon coco, il est arrivé en première année aussi, puis il est arrivé avec des dessins explicites un peu. En première année, la prof avait pris l'initiative d'expliquer comment on fait des enfants. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Et là, j'ai appelé d'autres mamans de d'autres groupes de première année, puis ils n'avaient pas vu ça eux autres. C'était vraiment la prof qui avait dit, bien, hey, là, moi, j'étais pas contente. Fait que j'ai appelé à l'école, puis j'ai dit, je veux parler à ce prof-là. Puis la prof, elle m'a appelé, puis elle m'a dit, c'était plus pour en prévention des abus, mais j'ai dit, non, c'est pas nécessaire d'expliquer ça. De lui, il m'a expliqué comment on fait. C'était pas normal qu'à 6 ans, il sache ça. Tu sais, donner une voix, dire comment qu'on n'est pas d'accord. Les autres profs n'avaient pas fait ça. Elle avait pris l'initiative, puis. Je ne trouvais pas ça correct. Je ne sais pas pourquoi, mais l'année d'après, en tout cas, elle n'était plus là, la prof. Mais en tout cas, ça donne de même, peut-être, là, mais il faut le dire. Quand on n'est pas d'accord avec des choses comme ça, il faut se lever et le dire. Qu'est-ce que je trouve qui est important, c'est d'être conscient qu'on est les mamans. Puis là, je ne parle pas juste des mamans, en fait, là, les papas aussi. On est des modèles imparfaits, complètement imparfaits. Mais ce qui est important, là, c'est de leur montrer de demander pardon. Nous-mêmes, quand on s'emporte, moi, ça m'arrive. Là, des fois, là, je bouille parce que je vois quelque chose qui vient d'arriver entre mes enfants. Puis là, mais si tu dépasses, les paroles dépassent tes pensées ou peu importe, là, c'est d'aller puis de dire, tu sais, tantôt, maman, elle a vraiment été trop loin. Je te demande pardon, j'aurais pas dû parler comme ça ou parler fort comme ça ou c'était démesuré. Nous demander pardon, les enfants nous voient faire ça, ils se disent, OK, mais maman aussi, elle n'est pas parfaite. Aussi, maman aussi, elle fait des erreurs. Puis, ça donne l'exemple qu'il faut demander pardon. Il faut reconnaître nos torts. C'est super important. Mais aussi être un modèle par rapport au fait qu'on passe par-dessus des peurs, des craintes, des. Tu sais, quand j'ai commencé ici dans le groupe, il y a une couple d'années, là, j'avais dit au conducteur de louange, moi, si tu peux me mettre en arrière du rideau. Je veux juste chanter, je veux pas qu'on me voie. J'étais vraiment. Mes enfants, ils savent, là, ma fille la plus vieille, elle sait comment ça me stressait là, de faire des solos. Puis jamais j'aurais pensé qu'à un moment donné, je conduirais la louange là, en avant. Là, Dieu il a fait un travail, mais les enfants aussi, ils savent, ils sont conscients de comment est-ce que maman passe par-dessus la peur puis la gêne. Faut pas rester dans la peur, faut pas rester dans la gêne. C'est pas, on a prié la semaine passée pour ça, justement, la gêne, mais. C'est important que les enfants, ils voient, on a des faiblesses, aussi. on se met des limites, puis il faut passer par-dessus ça. Nos enfants, on veut qu'ils aillent encore plus loin. Si on veut, tu sais, on veut souvent les pousser, puis voici, tu es capable, mais il faut nous aussi le faire, là, passer par-dessus nos craintes, puis nos limites qu'on s'est mis. Puis je dis souvent à mes enfants, on est des modèles, nous, les mamans aussi, les enfants, vous représentez Jésus. Embarquez pas dans l'intimidation quand vous voyez des choses inacceptables. Encouragez l'enfant qui a de la peine ou qui se fait niaiser ou qui. Encouragez-le à la place de dire hey, non, moi j'ai trouvé que tu étais bon avec le ballon. Puis faites ça parce que c'est important. On représente Jésus. On n'embarque pas dans la méchanceté puis dans ces choses-là juste pour être cool. Là. Ça ne marche pas. On représente Jésus puis mes enfants, ils savent, je le dis souvent. Il faut retenir ça. On veut aussi le meilleur pour nos enfants. On ne veut pas jalouser ou dire ah, moi, j'ai pas eu ça. Fait qu'il n'y aura pas de tout ça dans sa vie. Tu sais, là, moi, je trouve qu'il est assez gâté. C'est pas dans le sens de gâté, mais dans le sens de comme là, je permets, chercher les opportunités que nos enfants ils ont besoin d'essayer des. Tu sais, comme aller vers la danse. Si on voit que notre enfant a besoin de bouger, de la gym, un enfant qui a vraiment l'oreille musicale, le dessin, il faut aller connaître, aller voir, puis c'est quoi les talents, les dons que Dieu a mis en mon enfant. L'aider là-dedans, des fois c'est cher, des fois on ne peut pas se permettre, mais d'essayer de trouver des opportunités pour que nos enfants ils s'épanouissent, puis que justement ils voient qu'est-ce que Dieu leur a donné comme don. Puis c'est ça. Il y avait un, un autre livre que j'aime, qui est super. On devrait accoucher puis avoir ça. un livre comme ça. Quand il dit dans les cils que ben, c'est aimer nos enfants intentionnellement. La communication non violente pour une relation de cœur à cœur. Il dit à un moment donné, il parle du Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Puis là, il parle, lui, par rapport au. Il dit le rôle que. Notre rôle de parent, c'est de former nos enfants. Cependant, contrairement à ce qu'il y a des gens qui pensent que. Forme ton enfant selon la voie que tu veux qu'il suive. Ou forme ton enfant selon la voie sur laquelle tu penses qu'il devrait aller. Ou forme ton enfant selon la voie où tu es toujours gagnant. Donc, il existe une voie pour chacun de nos enfants. Est-ce qu'on la connaît? Il faut prier là-dessus, puis demander à Dieu qu'il nous révèle. Puis c'est vraiment, c'est Dieu, c'est, ça dit vraiment, l'instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Fait que c'est ça, j'encourage les mamans aussi d'avoir ça en tête, de prier pour la destinée de nos enfants. Dans le fond aussi, là-dedans, il y a des bons. En tout cas, les papas, là, si vous n'avez pas quoi acheter à vos épouses là, ou vos mamans, puis c'est pas juste une affaire de maman, là, grand-maman. Et grand-maman, les deux livres, là, c'est super. C'est deux beaux cadeaux à offrir. La prière d'une mère, puis il y a aussi des grands-mamans là-dedans, justement. Et dans le fond, c'est ce que ça dit aussi dans celui-ci, c'est la priorité, c'est de travailler sur l'attitude de cœur de notre enfant. C'est vraiment ça, la priorité. Plus que y obéis-tu ou y es-tu obéissant tout le temps, ou tu sais, c'est vraiment plus que ça, c'est le cœur de l'enfant. Il dit aussi à un moment donné, traiter nos enfants comme les enfants de Dieu, ça va, ils vont porter du fruit. Si on les traite comme des problèmes à régler, ils vont devenir des sources de problèmes. C'est vraiment de travailler, de traiter nos enfants comme des enfants de Dieu. Et c'est ça, je pense que j'ai fait le tour, j'ai parlé super vite, mais je m'excuse, j'espère que j'ai été claire. Mais en tout cas, je vous encourage à vous procurer ces livres-là. Les hommes aussi, là. Ça, mon mari, il l'a vu aussi, là. Il l'a lu aussi, là. C'est vraiment pas juste une affaire de maman, là. Fait que, en tout cas, soyez bénis. Merci d'avoir écouté.
Merci, Sonia. La prochaine, je l'appellerai une chef de tribu. Elle veille sur sa tribu et... je ne peux pas passer un temps avec elle où on va manger ensemble. C'est sûr qu'elle va me parler soit de ses enfants ou de ses petits-enfants. Vraiment, elle s'occupe de ses enfants avec soin. Elle prend soin de chacun d'eux. Je pense qu'elle les connaît vraiment personnellement, chacun d'eux. Et c'est une bergère aussi. Alors, je vous la présente, Denise Berger.
Merci Sonia. Bonjour à tous. Moi, quand Sonia m'en a parlé, j'ai fait « ouf, un petit peu, je vais y penser ». J'ai pratiqué, j'ai souvent dit oui à des choses, puis après je faisais « oh, qu'est-ce que j'ai mis mes pieds dans les plats ». Fait que j'ai dit « ben, je vais y réfléchir, mais je suis vraiment honorée qu'elle me l'ait demandé, puis je suis honorée de pouvoir vous partager une exhortation ». Je m'excuse, je vais prendre ma bouteille d'eau. Fait que je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis née de nouveau en 1986, ça fait 33 ans, puis je ne sais pas si je peux dire que j'ai 33 ans au lieu de 60 ans. Fait que depuis que je suis Seigneur, vraiment, c'est la chapelle qui a été toujours ma maison. Je suis née de nouveau ici, puis j'ai été 23 ans secrétaire de la chapelle, puis... en 2015, c'est Geneviève, ma plus vieille, qui a pris la relève. Moi, j'ai pris ma retraite de ce poste-là, mais pas de l'air. Je ne suis pas vraiment en retraite. Je suis vraiment occupée en masse. De les voir, Geneviève et Christian, avec les trois enfants, là, ça nous bénit vraiment. Là. Bénir, en passant, ça veut dire que ça nous rend heureux. Puis je suis vraiment... ils sont incroyables. Je les regarde aller, là, puis c'est fou. Mais ce que j'ai dit à Geneviève, c'est que je vous aime à cause de qui vous êtes, pas parce que vous faites des choses. Fait que je suis mère de 4 beaux enfants, 3 filles et un garçon. Geneviève, la plus vieille, Steve, Kim, Catherine, et grand-maman de 11 petits-enfants. Fait qu'imaginez-vous donc, ça fait 18 ans que je dors avec un grand-père. Fait que si j'ai mis des photos sur PowerPoint, tu peux mettre ma première, s'il vous plaît. Ah, et voilà. Moi et André à gauche, ça fait 40 ans. La famille, puis en bas à gauche, la famille de Geneviève, à droite, la famille de Steve. Puis, si tu peux mettre la numéro 2, s'il te plaît. En haut à gauche, c'est la famille de Kim Martin. À droite, mon bébé Catherine avec ses 4 enfants. Puis en bas, c'est au mariage de Steve et Mélissa. Fait que ça, Kim puis Catherine étaient enceintes en 2015. Fait que tout ce que... Mon plus grand plaisir, moi, là, c'est vraiment... qui réjouit profondément mon cœur, c'est quand je les vois, toute cette gang-là, autour de la table, et de pouvoir voir ce qu'ils sont devenus, qui ils sont devenus. Puis, c'est précieux, c'est vraiment précieux pour moi, puis j'ai une relation différente et spéciale avec chacun d'eux, parce qu'ils sont uniques. Tous les petits, les 11, puis les enfants, puis les gendres aussi. Fait que, d'où mon titre d'exhortation, c'est « Fière d'être mère », d'être grand-maman aussi, parce que je suis grand-maman aussi. On doit être fière aussi de nos mères. J'ai trouvé une définition pour « fière », puis celle qui était… il y en avait une, c'était comme « être hautain », mais celle que j'ai vraiment adoptée, que c'est celle que je voulais vous parler, c'est un sentiment de bien-être, de satisfaction de soi-même ressenti après avoir accompli avec succès une tâche ou avec succès le rôle que Dieu nous a donné à faire. Puis c'est pas d'une façon orgueilleuse, parce que Dieu dit dans 1 Pierre 5, 5b, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Fait que c'est vraiment une fierté de ce que tout ce qu'on reçoit, ça vient de Dieu. Puis c'est pas non plus de se vanter, parce que dans Proverbe 27, 2, ça dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Mais ça veut dire de ne pas se vanter. Mais être fier, c'est vraiment de reconnaître l'œuvre de Dieu. Puis, vraiment, quand on reconnaît tout ce que Dieu met en nous, ça a toujours été ma prière. Seigneur, je veux être la meilleure de ce que tu as pour moi. Fait que ça nous garde toujours avec celui qui nous a créés. On est sa créature, puis il met juste le meilleur en nous, puis c'est son désir. Puis, fait que le verset qui va avec ça, c'est Romains 12, 3. « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce que vous devez prétendre. Tendez, au contraire, à une sage appréciation de vous-même. » C'est de cette fierté-là que je parle. Chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Pensez-y, imaginez. Dieu a estimé notre valeur de chacun de nous au prix de la vie de Jésus qu'il a donnée sur la croix. Ça s'applique à nous tous. C'est un grand prix, un très grand prix. Comme dans Romains, chacun selon la part que Dieu lui a donnée, comme mère, on a une part aussi qui nous est réservée. Que ce soit la mère naturelle, la mère de cœur qui a adopté des enfants, ou la mère par amitié, la mère spirituelle. En premier lieu, oui, c'est sûr, on est des mères, mais en premier lieu, on est la fille de notre Père céleste, notre Père naturel aussi. Comme en 2012 ou 2013, Dieu a fait un dépôt précieux dans mon cœur. Je me souviens, on avait été à un JU, puis il y avait Danny Silk, puis il parlait justement de l'amour du Père. Puis à un moment donné, ça a été fort sur moi. Je voyais mon Père naturel. Puis c'est comme, il m'a confirmé, « T'es la fille de ton Père. » Tu sais, des fois, on dit ça, « T'es la fille de ton Père ou de ta mère. » Tu sais, il y a comme des traits qui sont pareils, puis... Ça, ce que ça a fait comme dépôt dans mon cœur, c'est que ça... Oui, je suis la fille de mon Père céleste. Je suis la fille de mon papa qui a donné sa vie pour moi. Puis ça a été vraiment fort sur mon cœur. Puis ça, c'est quelque chose qui nous fortifie, qui nous aide à grandir. Puis aussi, à mesure qu'on se laisse transformer, on lui ressemble de plus en plus. Parce que des fois, on voit juste le côté négatif, tu, on voit soit notre péché ou nos manquements, ou... mais il faut voir qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Puis c'est ça qui m'a révélé. Puis si on tombe, bien, on va le voir, puis comme on va voir notre père ou notre mère, je m'excuse, je te demande pardon, puis il nous restaure, il nous ravive. Fait que Dieu, vraiment, il est notre source. Puis quand on est une maman, c'est une facette de ce que Dieu fait dans notre vie. C'est pas notre vie elle-même, même si ça nous poursuit toute notre vie, on va être une maman toute notre vie. Puis quand nos enfants sont jeunes, il faut prendre un temps pour prendre soin de soi. T'sais, refaire le plein d'énergie, se ressourcer, aller prendre un café avec une amie, un temps en couple, un sport, aller faire l'épicerie. Aller faire l'épicerie? Non, moi, j'aime pas ça. Je me suis trompée d'activité. C'est pas quelque chose qui me relaxe. C'est André qui fait l'épicerie. Puis quand on prend soin de soi, après ça, on est meilleur. On a plus d'énergie pour prendre soin de notre maisonnée. En deuxième, les mamans, ils donnent naissance. C'est Dieu qui donne la vie, c'est pas nous, c'est vraiment Dieu. Mais nous, on donne naissance. On donne naissance à des enfants, naturellement, de cœur ou spirituellement. On peut aussi donner naissance à une amitié, puis c'est toute une aventure, donner naissance à un enfant. Je pense qu'il y en a plusieurs qui savent c'est quoi. Le mot d'ordre d'une maman, c'est « donne, donne, donne ». Quand on donne naissance à nos enfants, après les douleurs, on entre dans une formation incroyable. Incroyable. Si j'avais su. Non, je le referais, c'est sûr. Être une maman, c'est aimer inconditionnellement. C'est un don de soi. Ouf! Il y a plein d'images qui me viennent, là. L'écoute, les nuits blanches, les nez mouchés, les inquiétudes, l'enseignement, infirmière, négociateur, consolatrice, psychologue, vétérinaire. Vétérinaire? Non, ça, c'est ma troisième. Quand je mets poule, ça, c'est vétérinaire. La maman est le premier répondant, l'intervenante. Je pense que c'est le CV le plus long qu'on ne peut pas avoir. Quand les enfants sont grands, parfois, on s'est tellement oublié soi-même qu'on se cherche. Mais c'est là qu'il faut, parce que tout ce que Dieu a mis en nous, on le prend, on l'utilise pour élever nos enfants. Mais aussi, il faut continuer après. parce que oui, les enfants sont grands, mais on continue à en prendre soin. On peut aussi, cet amour inconditionnel, on peut la partager avec d'autres femmes, avec d'autres personnes. Puis les femmes, à un moment donné, dans la parole, ça dit que de prendre soin comme la femme qui est comme le sexe faible. Mais je pense que c'est plus parce qu'elle va s'oublier. Si quelqu'un ne rappelle pas, elle va s'oublier tellement elle-même qu'à un moment donné, elle va dire « qui je suis? » Fait que c'est ça, il faut vraiment prendre soin de nous-mêmes, malgré tout. Puis aussi, ce que ça peut faire, c'est qu'on peut avoir de la difficulté à recevoir. Parce qu'on est tellement habitué à donner, quelqu'un nous donne de quoi, ou nous fait un compliment, ou hein? « Oh, ben merci, mais tu sais, on n'est pas trop à l'aise, en tout cas moi. Je suis pas trop à l'aise des fois avec ça, mais je commence vraiment, Dieu fait une œuvre, puis c'est un bout que… » Puis, j'admire vraiment mes filles. Mes filles, ma belle-fille, ils sont vraiment incroyables parce que, tu sais, quand les sous sont pas là, mettons, tu sais, en plus de travailler, ils s'occupent de la maisonnée, ça, je me dis, wow! Moi, quand on a eu les enfants, on a dit, ben, on va, je vais rester à la maison. Mais à un moment donné, les finances étaient moins là, fait que j'ai été travailler un peu, mais moi, ce que je voulais, c'est rester à la maison, nu-pied dans le cours, assis avec eux, puis jouer avec eux. Mais quand je les vois aller, travailler et tout, je me dis « wow ». Ben, j'ai un secret à vous dire. Tu sais, le proverbe 31, la femme, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Ça, c'est la femme vertueuse de proverbe 31. Et elle donne la nourriture à sa maison et de la tâche à ses servantes. Avec des servantes. Fait que nous, quand les jeunes mamans travaillent puis s'occupent de la maison en plus, phew! Mais elle avait des servantes. Fait que c'est quelque chose. Mais c'est précieux. Puis des fois, quand on est dans le feu de l'action, on ne réalise pas, mais on forme une société. Parce que ce qu'on transmet à nos enfants, après ça, eux, ils vont le transmettre, puis ils vont être des acteurs dans la société, que ce soit nos garçons, nos filles. Fait que c'est précieux, c'est pour ça qu'il faut être fier, fier de nos mères, fier d'être mère, c'est tout un défi. C'est tout, mais avec la grâce de Dieu, avec lui qui nous donne sa vie, c'est encore mieux. On est des transmetteurs, on doit... On transmet, mais il faut rester connecté au bon poste qui est Jésus. Quand on reste connecté sur le bon poste, on a sa grâce, sa force pour aller de l'avant. Puis aussi, il faut avoir une proximité avec nos enfants, nos petits-enfants, autant que c'est possible. Puis transmettre, continuer de transmettre l'amour inconditionnel. Puis c'est l'effort que ça nous prend, c'est de rester accrochés et fidèles à Jésus. Puis si on a des enfants qui connaissent Jésus, mais qui ne sont pas encore engagés à suivre Jésus, il ne faut pas se sentir coupable. Parce qu'il y a eu un temps où je me sentais coupable. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que j'ai vraiment transmis l'amour de Jésus? Mais la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Fait qu'à un moment donné, j'ai coupé le cordon ombilical de la culpabilité. Puis au lieu, je reste à intercéder, à prier. Il faut continuer à les aimer, à les contaminer avec le bien. Le bon, avoir une oreille attentive, être de bons conseils, pas des moralisateurs. Fait que ma conclusion, c'est soyez fiers de vos mères, ayez une autre considération, une attention particulière pour qui elles sont. Maman, soyez fiers de vous, de cet investissement fait à ceux que vous aimez. Soyez enrichis et comblés. Restez connectés à la source. qui est Jésus. Merci et bonne fête des mères.
Merci Denise. Et on veut accueillir aussi une grand-maman. Je sais qu'elle est une grand-maman pour plusieurs ici, mais elle est aussi une mère spirituelle et elle est vraiment une maman pour la chapelle chrétienne, Madame Thérèse Lapagne.
Bonjour. Quelle belle famille que Dieu me donne. Je vous aime et je veux vous garder. Bon. Est-ce qu'il y a des mères parfaites ici? Levez la main, s'il vous plaît. Ah, bien, je suis contente, là. Mais ça en moins toute seule. Bon, c'est sûr qu'on désire toutes être des mères parfaites, ou presque, même plus que notre mère. Moi, j'avais une bonne mère, mais dans mon coin de pays et dans ma génération, les câlins et les compliments, c'était pas dans les mœurs. Et moi, je me disais, bien, si j'en ai des enfants, j'avais une dizaine de prénoms déjà de choisis. Je me promettais que ça allait être différent. Et quand j'ai eu la première, là, ça allait bien, j'avais du temps, j'en profitais. Après 20 mois, il en arrive deux. Donc, ça faisait 3 aux couches non jetables. les bouteilles de lait à faire bouillir, en tout cas. Et dans ce temps-là, on n'avait pas l'aide, les services que les jeunes femmes ont aujourd'hui, là. Donc, ça n'a pas été comme j'espérais. Et mon mari travaillait beaucoup, il partait de bonne heure le matin, il revenait tard le soir. Il ne pouvait pas m'aider tellement. Moi, j'étais pas mal feluette aussi, là. J'étais pas beaucoup de santé. Une nuit, il dit, ben laisse faire, je vais me lever, je vais les faire boire. Puis je me lève à un moment donné, puis il dormait avec une petite dans les bras. Donc, il dit, laisse faire. Non. Et, en 63, mon mari a commencé à être malade. Et dans ce temps-là, on ne savait pas c'était quoi, les médecins. Ils donnaient des pilules, mais finalement, ça a été en 76 qu'ils ont découvert, qu'ils ont trouvé la maladie, c'était bipolaire. Dans ce temps-là, ça s'appelait maniaco-dépressif. Et en 63, là, je ne vais pas tout vous compter, là, mais ce n'était pas facile. Puis avec les 3 filles, puis tout ça, après qu'il a eu fait une couple de grosses crises, là, moi, j'ai dit à ma mère, là, si en fait une autre, là, je ne passerai pas au travers, on va se laisser. Mais en 71, j'ai accueilli Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie. Et là, ça a changé, ça a tout changé. Et à partir de ce jour-là, sa parole, c'était mon pain quotidien, c'était mon livre de recettes et c'était mon GPS. Mais le diable n'était pas content, lui. Et là, il a un peu comme Denis disait tantôt, il a commencé à me dire que je n'avais pas été une bonne mère. C'est comme j'espérais. Quand j'avais fait le nécessaire, là, j'avais plus d'énergie pour les câlins, puis tout, jouer avec eux autres, puis ça. Fait que ça, là, ça me tracassait beaucoup. Et un matin, je parle de ça avec Jésus, puis j'étais rendue à lire dans Romains 8, là. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouf! Ça, c'est... ça fait du bien, hein? Donc, c'est sûr que le diable ne longe pas comme ça, mais à chaque fois, là, je lui rappelais. Parce que c'est important de la connaître, la parole de Dieu, la méditer, la garder dans nos cœurs. Puis quand l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc quand il vient, puis il ne longe pas, ça revient encore. Puis là, quand je me dis, il va bien falloir que je me confesse, là, puis l'accusation, hein, ça vient tout le temps. Mais je fais comme Denise, là, je refuse. Donc, je vous encourage vraiment à en faire votre nourriture de chaque jour, puis qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Puis même si on n'a pas toujours la Bible sous nos yeux, le Saint-Esprit nous le rappelle quand on en a besoin. C'est tellement important. Puis pas vous décourager, puis comme Denise disait, il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. C'est vraiment ça. Puis finalement, bien, si ça n'aurait pas été du Seigneur, par exemple, on n'aurait pas été 60 ans ensemble. Fait que je veux lui donner toute la gloire, puis soyez bénis, puis encouragez-vous, puis aussi la famille de Dieu, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Il y a Carmen qui a fait des cadeaux pour la fête des mères. Alors, les mères, ne partez pas sans aller à la table chercher un cadeau. C'est vraiment toute Carmen qui a fait ça. Es-tu là, Carmen? Merci, Carmen. Est-ce qu'on peut l'applaudir avant? Merci beaucoup. Merci pour ton temps, Carmen. Merci pour ton attention et ta tendresse envers les mamans de la chapelle. Alors, j'aimerais qu'on prie pour les mamans. Est-ce que vous voulez venir en avant, s'il vous plaît, les mères? Et comme Denise a dit, les mères biologiques, les mères de cœur, les mères spirituelles. Venez-vous-en, Sonia et Denise, vous voulez venir aussi? Alléluia! Merci, Seigneur! Alléluia!
Bien-aimé Jésus, merci de nous avoir choisis avant la fondation du monde. Tu nous avais choisis pour être tiennes, pour t'appartenir. Merci d'avoir eu la patience de nous attendre, Seigneur, parce qu'on n'a pas toujours ouvert nos cœurs au premier instant que tu nous as appelés. Merci pour l'œuvre que tu fais dans chacune de nos vies. Continue cette œuvre, Seigneur. Rends-la parfaite pour le jour de ton retour. Aide-nous à être des exemples, des ambassadrices de ta grâce, des exemples de foi et de persévérance pour la génération qui nous suit. Et on te prie aussi pour toutes les mères de cette région, Seigneur, qui ont tellement besoin de connaître cet amour que nous, on connaît. Tu dis que tu es le défenseur de la veuve et le père de l'orphelin. Comme on a entendu ce matin, Seigneur, il y a beaucoup d'orphelins de toute façon, des orphelins physiques, des orphelins spirituels surtout. Seigneur, on prie que tu puisses révéler ton amour à ces personnes-là, unir les familles, Seigneur, guérir, restaurer. Merci, merci pour ton œuvre, Seigneur. Oui, que ta gloire descende dans ce lieu et que chacun de nous, on puisse être des lumières qui brillent dans les ténèbres qui nous environnent. Merci, Seigneur, merci qu'un jour, on va être tous réunis ensemble pour les noces de l'agneau. Merci, Seigneur, à toi nos vies, faisant ce que tu veux pour ta gloire. Amen.
Amen. Amen.
Ben moi, je prierais pour un dépôt de rafraîchissement et un dépôt d'un amour incroyable, inconditionnel de Dieu pour chacune des mamans, comme j'ai dit tantôt, naturelles, spirituelles et amicales. Amen.
Amen. Bonne fête des mamans et dites à vos mamans que vous les aimez. Alléluia.